auditeurs, bonjour. Comme chaque vendredi, je vous propose d'aborder une thématique juridique qui sera dédiée aujourd'hui aux agressions. Comment réagir suite à une agression? Qui prend l'initiative d'une procédure contre l'agresseur? Comment est évalué votre préjudice? Et qui vous indemnise? Voici les questions auxquelles je vais répondre en compagnie de Jennifer.
Bonjour Maître Céline Lindo, avocate au barreau de Marseille. Nous sommes encore réunis ce jour pour une nouvelle émission où le droit s'exprime avec passion. Oui, Maître Céline Lindo va vous éclairer un petit peu le chemin du juridique, puisque parfois si compliqué, avec beaucoup de possibilités. Aujourd'hui, les agressions. On va voir aussi que les agressions, elles peuvent être physiques, verbales, et comment les procédures peuvent être entamées. Vous avez entendu les questions, un grand sujet vaste que nous allons aborder. Alors, Maître, les agressions, justement, elles peuvent être de multiples conséquences, de manières aussi. Donc, est-ce qu'on peut un petit peu définir tout cela ?
Tout à fait. Déjà, la terminologie juridique qui est retenue par le législateur, c'est les violences volontaires. Ah. Donc, on a des violences volontaires à l'intégrité physique. Alors, nous, on parle d'agression de façon générale, lorsque l'on a été victime d'un acte qui nous a fait souffrir, que ce soit dans notre chair ou que ce soit moralement. Hein. Le législateur a retenu donc ces violences volontaires et il y a des violences volontaires qui sont qualifiées de légères, d'autres qui sont ordinaires. Et qu'est-ce qui va venir caractériser la violence volontaire délictuelle ou celle qui relève du champ contraventionnel, ça va être l'ampleur du préjudice. Le législateur a retenu une unité de mesure qui est l'incapacité totale de travail. Voilà.
Et c'est quand elle serait d'ordre physique, mais remarquez, moral aussi.
Ça peut être les deux, oui. Tout à fait. Et c'est cette unité de mesure qui vient déterminer l'infraction. Est-ce qu'on est en matière de délit? Est-ce qu'on est en matière de contravention?
Qui la délivre justement, cette incapacité de travail?
Alors, c'est un médecin qui est désigné très généralement dans le cadre d'une enquête pénale et qui va délivrer un certificat médical au terme duquel il va chiffrer l'incapacité totale de travail. Donc lorsqu'une personne dépose une plainte, on va l'orienter vers un médecin de l'unité médico-légale dont c'est le métier, hein, d'évaluer effectivement.
Médico-légal, ça fait de suite penser, vous savez, quand on voit dans les séries où il y a les meurtres, etc.
Oui, ça fait penser au médecin légiste, effectivement, voilà, mais l'unité médico-légale
n'est pas que ça,
effectivement. Il y a des médecins qui sont là pour examiner les personnes bien vivantes et pour évaluer justement leur préjudice.
C'est une précision.
Lorsque l'on retient une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours, on est sur une contravention. Lorsque l'on retient une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, on est dans le cadre d'un délit. D'accord. Donc la juridiction n'est pas la même et les peines encourues par les agresseurs ne sont pas les mêmes. Donc lorsque l'on est victime d'une agression, on ne sait pas de quoi on est victime si ce n'est d'un choc. Okay.
Mais parce que, Maître, excusez-moi avant que vous continuiez dans votre démarche, mais tout le monde peut se dire victime d'une agression. Vous voyez comment on peut déterminer son degré? Alors vous venez de le dire. À travers un médecin médico-légal qui va déterminer en fonction d'une incapacité totale de travail, donc là, on va dire le préjudice. Mais je sais pas, si je suis dans la rue, je me fais agresser verbalement par quelqu'un qui me dit des propos un peu injurieux sur ma beauté, etc., mais qui n'est pas dans ce bon sens-là, mais je me sens vraiment agressée, oppressée, voire la personne me suit, etc. Est-ce que ça fait partie d'une agression, par exemple, ça ?
Non. Alors,
voilà, il faut savoir à quel degré, à un moment donné, on peut dire qu'on est victime d'agression ?
On peut se sentir agressé par un acte qui ne va pas caractériser une infraction pénale. La matière pénale est très spécifique et chaque fait doit coller à la définition de l'infraction dont on se prévaut, en tout cas, ou dont on se dit victime. Voilà. Il y a les violences volontaires, il y a les injures, il y a les appels téléphoniques malveillants qui peuvent être subis et vécus comme une agression. Mais on a créé cette infraction spécifique justement parce qu'à un moment, on avait du mal à caractériser une violence par le simple fait de recevoir des appels téléphoniques.
Qui peuvent être aussi sur les réseaux sociaux aussi, maître, maintenant, avec tout,
tout cela. D'accord. Tout à fait. Donc, à partir du moment où on estime avoir été victime d'une violence, quelle qu'elle soit, d'un acte qui, en tout cas, vous affecte. La première chose à faire, c'est d'aller déposer une plainte. Mmh. Alors, il faut savoir que lorsque l'on va déposer une plainte, les policiers ou les gendarmes qui vous reçoivent doivent recevoir cette plainte. Bon, dans les faits, on sait que parfois, des personnes peuvent appeler le cabinet en disant
« Il n'a pas voulu,
prendre ma plainte. » Parce que le policier estime qu'il n'y a pas de plainte ou je ne sais quoi.
Il n'était pas justifié, en fait, oui.
Voilà. Ou, bon, alors, dans ce cas-là, on propose aussi aux personnes de déposer une main courante. La différence entre la main courante et la plainte, c'est que la main courante ne va pas donner de suite. C'est déclaratif, c'est une petite alerte que l'on met,
on le signale,
exactement,
en fait.
Que l'on cristallise. Ouais. Et puis si un jour il se passe quelque chose, on pourra dire, écoutez, moi j'ai déposé déjà une main courante. Voilà. Donc on laisse une petite trace officielle, okay, quelque part. Mais il n'y a pas de suite.
Oui, on ne peut pas aller après dans une procédure.
Non. Donc ensuite, l'étape classique, c'est donc déposer une plainte auprès des services de police et de gendarmerie. Qu'est-ce qui se passe après ? Eh bien, soit le procureur, donc les policiers se mettent en relation avec le procureur pour l'informer, mmh, de ce signalement,
plainte,
tout
ouais.
à fait. Et le procureur a plusieurs options. Il peut diligenter une enquête, il peut saisir un juge d'instruction lorsqu'il estime que les faits sont assez complexes et en tout cas nécessitent des investigations beaucoup plus approfondies. Donc là, on est sur des infractions, par exemple, ça pourrait être une agression sexuelle commise dans un cadre intrafamilial. Voilà, on estime qu'il va falloir une expertise, il va falloir des investigations médicales, il va falloir tout un tas de choses. Donc le juge d'instruction, c'est une option. On ouvre une information judiciaire et ce sera beaucoup plus long comme processus. Et là, c'est le juge d'instruction qui devient le chef d'orchestre de la procédure. Mais si le procureur estime qu'il a assez d'éléments pour poursuivre son enquête en préliminaire et en orientant les policiers vers dans leurs actes, il le fait. Il peut donc saisir ce juge d'instruction. Il peut convoquer la personne qui est mise en cause à l'issue de sa garde à vue directement devant le tribunal. C'est ce qui s'appelle une comparution immédiate. D'accord. Et il peut aussi, s'il estime que la personnalité et la gravité des faits justifie une convocation sur le plus long terme et qu'on n'est pas obligé de juger dans l'urgence, il peut tout simplement remettre une convocation aux mises en cause, donc qui sera convoquée devant le tribunal et qui organisera sa défense. Donc ça, ce sont les possibilités. La question qui se pose à la victime, une fois qu'elle a déposé sa plainte, c'est « qu'est-ce que je dois faire ?» qu'est-ce qui va se passer si je n'ai pas de nouvelles ? Donc là, il faut savoir que lorsque l'on dépose...
Quand vous dites qu'il n'y a pas de nouvelles, c'est qu'une fois qu'on a déposé la plainte...
Il n'y a plus de nouvelles. Voilà.
C'est possible.
Oui,
ça
peut arriver.
D'accord.
Donc il faut savoir que dans tous les cas, vous déposez une plainte au commissariat ou à la gendarmerie, vous devez attendre 3 mois. Avant de vous inquiéter des suites
Oui, on ne se dit pas il y a une nouvelle 2 jours ou 3 jours après.
Voilà. Donc, à partir du moment où ces 3 mois sont échus, vous avez la possibilité... Bon, déjà, vous pouvez vous renseigner. Hein, c'est souvent ce que l'on fait pour les personnes qui nous saisissent. On se renseigne auprès de la juridiction pour savoir si la plainte a été transmise au parquet,
d'accord,
si le parquet est en enquête préliminaire, voilà, pour pouvoir informer nos clients de l'état de la procédure. Bon, sachant que dans tous les cas, l'enquête est secrète, donc on n'a pas véritablement d'infos, si ce n'est le stade de la procédure. Est-ce que c'est traité ou pas ? Bon, si ce n'est pas traité, généralement, parce que le procureur, qui est le seul personnage en l'état à pouvoir juger de l'opportunité de poursuivre une personne, il peut estimer que soit l'infraction n'est pas caractérisée, soit il n'y a pas assez
d'éléments.
Il n'y a pas assez d'éléments, donc il n'y a pas d'infraction caractérisée, ou que la personne n'a pas été identifiée. notifié. Il peut rendre un avis de classement sans suite.
D'accord.
Alors, les personnes se retrouvent parfois démunies lorsqu'elles reçoivent un avis de classement sans suite, alors qu'elles sont persuadées d'avoir été victimes. Alors, dans ce cas-là, eh bien, elles se demandent justement si elles
peuvent... Oui, quels sont leurs recours.
Voilà, quel est leur recours. Alors, il faut savoir qu'on a la possibilité de soit saisir directement le tribunal par l'intermédiaire de ce qu'on appelle une citation directe, c'est-à-dire qu'on va faire citer par voie d'huissier. Donc ça, c'est l'avocat qui rédige la citation, hein, bien sûr. On va faire citer par voie d'huissier la personne que l'on qualifie, enfin, celui qui nous a causé un préjudice pour que le tribunal le condamne. Si on ne veut pas passer par cette voie parce qu'on estime qu'on a très peu d'éléments, et c'est vrai que c'est une voie que moi-même, je ne privilégiais pas parce que ce n'est pas la voie qui me met dans la
bonne disposition.
Oui, dans le sens où on préfère toujours se reposer sur des éléments d'investigation dont on n'a pas été nous-mêmes à l'origine, parce que bon, l'avocat n'est pas un détective privé, le justiciable non plus, et souvent les dossiers sont un peu faibles. Le dossier, ça va être lequel ? Ça va être le dossier qu'a eu en main le procureur et qui l'a conduit à rendre un avis de classement. On en demande la copie et puis c'est sur cette base-là qu'on va faire citer le prévenu. Donc soit on a des éléments en plus, et ça peut arriver, et dans ce cas-là, citons, soit bon, on se dit peut-être que des investigations supplémentaires pourraient être opportunes et nous avons la possibilité, la victime a la possibilité de saisir lui-même le juge d'instruction dans ces cas-là. Il faut qu'en préalable, il ait déposé une plainte classique. Hein, bien sûr, on ne saisit pas le juge d'instruction
sans avoir déposé une plainte au préalable.
Tout à fait. Donc là, on saisit le juge d'instruction et celui-ci va prendre le dossier. Il va demander à la victime de consigner une certaine somme d'argent. Donc ça, c'est pour éviter les procédures abusives, hein, les plaintes abusives. Et d'ailleurs, quand on fait citer une personne devant le tribunal directement, c'est pareil. Hein. La première audience, c'est une audience de consignation où on demande à la personne de s'acquitter auprès du registre, de la régie, pardon, du tribunal. On lui demande de s'acquitter d'une certaine somme d'argent. Donc ça dit...
Elle reste quoi, en dépôt ?
Oui, voilà, elle reste en dépôt. Il la récupère à la fin de la procédure, sauf si on estime que la procédure était abusive.
C'est si elle était estimée dans cette donc abusive, comme vous disiez, ça voudrait dire quoi ? Que la personne n'avait pas les faits réels de cette plainte, en fait. Donc, en gros, elle a fait perdre le temps à tout le monde, vous voulez dire. C'est ça.
À tout le monde. D'accord. Et là, on tombe même sur la dénonciation calomnieuse et elle-même peut être poursuivie par la personne qu'elle a accusée de façon abusive. Parce qu'après, on peut...
Mais c'est si la personne qui a été accusée en faisait la demande, évidemment, maître. Hein.
Oui, tout
d'accord.
à fait.
Bon,
après, le procureur peut aussi se saisir seul et poursuivre pour dénonciation calomnieuse. Oui. Mais en général, c'est plutôt effectivement la personne qui s'est estime lésé qu'il le fait. Après, il y a quand même une petite subtilité, c'est que c'est pas parce qu'on perd au tribunal parce que le tribunal estime qu'il n'y a pas eu d'infraction pénale qu'on va être condamné pour pour procédure abusive. On peut s'estimer légitimement victime de faits et ne pas obtenir le résultat escompté sans pour autant tomber dans la procédure abusive. Ce sont deux choses différentes. Donc, à partir de là, donc, on saisit le juge d'instruction, il rend son ordonnance de consignation pour que la victime présumée s'acquitte de cette consignation, et le juge d'instruction va faire des actes, et son travail, ça va être de déterminer quels sont les éléments à charge et à décharge. Le juge d'instruction, il est neutre. Voilà. Donc, son rôle, c'est véritablement de
faire le pour et le contre.
De mener l'enquête, tout à fait, avec les services de police et par le biais des commissions rogatoires, ils demandent aux services de police d'accomplir tel ou tel acte. Ça peut être d'aller auditionner, de faire des perquisitions, voilà, donc d'accomplir les actes qui n'auraient peut-être pas été faits dans le cadre de l'enquête préliminaire qui a fait l'objet d'un classement.
D'accord.
Et l'avantage de ce type de procédure pour la victime, c'est qu'elle est partie à la procédure. Donc, elle peut elle-même demander au juge de faire des actes en disant « Attendez, dans les auditions, il y a eu des contradictions entre deux personnes. Je vous demande, monsieur le juge, de confronter ces deux personnes.
D'accord.
Bon, et le juge accepte, le juge n'accepte pas, bon, ça c'est un autre débat. Mais on est acteur quand on est partie civile, on se constitue partie civile auprès d'un juge d'instruction, ça veut dire qu'on participe à la procédure pénale.
D'accord. Maître, vous qui êtes une experte des procédures aussi bien sur le territoire français qu'en Italie, ces droits-là, par exemple, si je me faisais agresser à l'étranger, ils sont les mêmes pour moi ? Il faut que je vienne porter plainte en France ou dans le pays étranger, admettons ?
Alors là, on tombe sur du droit international privé. Et donc, tout va dépendre déjà du lieu, effectivement, de l'infraction, de la nationalité de la victime. Il peut y avoir deux procédures en cours sur les deux pays. Et dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle une litispendance. Et il va falloir déterminer la procédure, la juridiction qui va rester saisie du dossier, parce qu'on ne peut pas être jugé deux fois pour les mêmes faits. Mais à partir du moment où une infraction est commise dans un pays... De fait, c'est le pays où a été commise l'infraction qui va s'estimer saisi. Il y a des règles de compétence en ce sens. Mais vous pouvez également déposer une plainte en France et le parquet peut se mettre en relation avec son homologue à l'étranger.
D'accord. Et là, dans ce cas-là, je suis représentée par un avocat français ou un avocat dans le pays ?
Ah ben,
où j'ai été victime.
Alors, le mieux, effectivement, c'est d'avoir l'avocat qui va aller plaider. OK ? Donc, l'avocat qui va aller qui va gérer votre dossier, qui connaît le droit qui sera applicable. Donc, je prends un exemple tout bête. Alors là, c'est un accident de la route qui a eu lieu en Italie. Moi, j'interviens pour la personne qui est en France. Mm-hmm. Et je suis la procédure aussi en Italie. Moi, j'ai un statut assez spécifique, c'est que je peux faire les deux. Donc, c'est vrai que c'est pas le meilleur exemple. Une personne qui est assassinée en France. Mmh. L'enquête se passe en France.
Bien
d'accord.
Sûr.
Les victimes qui vont être les parents, en l'espèce, je prends aussi un dossier que j'ai en tête, les parents de la personne décédée
sont
étrangers, ils vivent en Italie. Mmh. D'accord. Eh bien, la procédure se déroulant en France, ils cherchent un avocat qui peut les assister en France.
Bien sûr.
Après, on peut toujours être assisté de son avocat de famille qui sera en Italie, et puis les deux avocats se mettre en relation.
Et il y a la particularité de parler les deux langues aussi.
Voilà.
Quand même. Et
oui. Tout à fait. Mais donc c'est la juridiction française qui a rendu la décision. Et effectivement, il faut que les personnes, déjà qu'on a du mal à cerner le droit de son propre pays, les règles qui sont applicables dans son propre pays, quand il s'agit d'un autre pays, oui, il faut trouver un interlocuteur en local.
Bien sûr. Voilà. Alors c'est vrai que donc on disait dans cette émission, on appelle ça donc on s'estime avec donc une agression à partir du moment qu'on la caractérise comme violence volontaire. Ça peut être des injures, ça peut être des actions malveillantes comme des appels téléphoniques, une agression sexuelle. Mais on disait ça peut être une agression physique, ça peut être une agression verbale ou une agression psychologique, mentale en fait en quelque sorte. Et tout cela, ça pourra être déterminé, ce que je reprends un petit peu, notamment par un médecin médico-légal qui, lui, en fera, on va dire, son propre jugement et il mettra, à l'issue de cette estimation, une incapacité totale de travail. Si c'est reconnu donc vraiment comme une agression.
Alors non, le médecin lui dans tous les cas, oui. Il établit son certificat médical, il évalue les doléances qui sont exprimées par la victime. Donc la victime me dit que elle a été victime d'un coup de poing, de tsunami. Alors et ses constatations, ça va être un hématome et à la fin, il conclut lui simplement sur l'incapacité totale de travail. C'est tout le travail de la juridiction et donc de l'avocat que de déterminer si les faits qui ont causé ce préjudice-là caractérisent une infraction.
D'accord,
on est bien sur quelque chose qui... Alors, si on est sur les violences volontaires, est-ce qu'on est sur un acte qui est intentionnel ? Est-ce qu'on est sur... est-ce que le préjudice allégué, l'hématome, est-ce qu'il est en lien avec l'acte qui a été décrit par la victime ? Parce que ça peut arriver. Ah, j'ai reçu un coup de pied aux cuisses. Bon, et puis finalement, le médecin constate un hématome sur la joue. Donc, ça peut venir créer un débat, véritablement. Qu'est-ce qui s'est passé, véritablement, ce jour-là? Donc, il faut caractériser l'infraction dans sa réalité. Est-ce que ça s'est passé? Et est-ce que ça constitue telle infraction pénale? Ça peut caractériser une autre infraction pénale, si c'est pas des violences, justement, si c'est pas des violences volontaires, ça peut être des appels téléphoniques malveillants. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est tout le travail juridique de, du procureur qui va être à l'initiative des poursuites, que de qualifier l'infraction, et ensuite du magistrat, enfin, de l'avocat d'abord de l'interpréter, bien sûr, et de plaider pour obtenir une condamnation du tribunal, et de la juridiction qui va retenir, qualifier les faits, et puis après condamner, le cas échéant, la personne.
Je comprends, maître. D'accord, c'est clair. Maître, est-ce qu'il y a des différences lorsque la personne agressée est mineure ou majeure ?
Oui, alors déjà, il y a des différences en termes de prescription. C'est-à-dire que les délais de prescription, alors, en matière contraventionnelle, on est sur un an. D'accord ?
C'est-à-dire, maître ?
Ça veut dire que si on est victime d'une violence légère, une gifle.
Ouais.
Donc c'est une contravention parce que...
Oui, bon, vous disiez c'était une ITT de moins de,
voilà,
de 8 jours.
Bon,
c'est une
contravention. On a un an tout à fait pour activer la justice, sinon on est prescrit. Si on est victime d'un délit, donc on va dire des coups qui auront, en fait, des coups,
peu importe. Oui, une violence qui a des conséquences plus fortes, puisque vous disiez par exemple plus de 8 jours d'ITT.
C'est ça. On aura 6 années. Ça, c'est les années de prescription, 6 années pendant lesquelles on pourra activer les voies judiciaires. En matière criminelle, on est sur un délai de prescription de 20 ans. La différence quand on est majeur ou mineur, c'est que le délai commence à courir à la majorité. Voilà, à partir du moment où on peut... Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas déposer plainte avant, hein, mais le délai de prescription ne court qu'à compter du moment où la personne est majeure et donc capable, seule, sans accompagnement, parce qu'un enfant...
Alors, attendez. Je voudrais mettre, on va dire, sur un exemple, ce que vous êtes en train de dire. Ça veut dire que, mettons, mon enfant rentre de l'école, il a 12 ans, il s'est fait agresser, il y a quelqu'un qui l'a frappé. Il lui a mis un coup de poing. Il a été agressé physiquement. Je veux porter plainte.
Donc, là, vous pouvez déposer plainte. Vous n'avez pas à attendre du tout. Hein.
Et donc les conséquences. Après, la suite du... Donc je suis allée en gendarmerie, j'ai déposé plainte.
Voilà. Et après, on retombe sur le schéma classique qui est, bon, est-ce qu'une enquête va être engagée ou pas? Voilà. Votre enfant est mineur, ça aura simplement une incidence sur la peine encourue par le prévenu, d'accord, puisque c'est une circonstance aggravante pour lui. Mais l'enfant qui est mineur a les mêmes droits, bien sûr, que
qu'un adulte.
Voilà,
quelqu'un qui est majeur, oui.
Voilà. Ouais. C'est simplement que je prends l'exemple d'une personne qui est victime d'un viol.
Oui.
Pendant sa minorité,
oui.
Intrafamiliale,
oui.
Ça s'est passé en famille. On comprend que l'enfant puisse taire ce type d'infraction, n'en parle même pas à ses parents.
D'accord.
Bon, eh bien, et qu'il acquiert la maturité et puis et qu'il fasse son travail pour avoir le courage de déposer une plainte seulement une fois devenu majeur.
Oui.
À 25 ans,
oui,
voilà,
oui.
Parce qu'il grandit, parce qu'il a rencontré
et qu'il arrive à pouvoir l'exprimer.
Exactement. Eh bien là, on ne va pas lui dire, c'est proscrit.
D'accord.
En fait, on a un décalage du délai de prescription à partir de 18 ans, ce qui permet aux mineurs ayant subi ce
type d'agression,
de faire valoir leurs droits plus tard.
D'accord, ok, j'ai compris la différence. Et j'espère que vous aussi, chers auditeurs, c'est quand même vraiment, hein, si on n'a pas affaire à vous, vraiment on est perdu dans ce système juridique, même qui est bien fait, mais malgré tout, il y a toutes ces subtilités qui font la différence. Alors, on parle de la procédure, de comment, dans toutes ces agressions, comment donc agir et comment notre avocat nous représente. Alors, on était sur ça. Maintenant, une fois que notre préjudice a été reconnu, maître, en quelque sorte, comment est évalué ce préjudice Est-ce que, en fonction, il y a des gravités, des gravités moins importantes, et est-ce qu'il y a une indemnité et qui la génère, cette indemnité?
Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours deux débats lorsque l'on est partie civile dans le cadre d'un procès. Il y a d'abord un débat sur la culpabilité du prévenu, c'est ainsi qu'on l'appelle, donc la personne qui va être jugée, et sa culpabilité va conditionner, bien sûr, le fait que votre préjudice soit indemnisé. Donc, premier débat, la culpabilité. Très bien. À partir du moment où la personne est déclarée coupable, un deuxième débat s'ouvre, et c'est quel est le préjudice subi, quel est son montant, comment on le chiffre, et ensuite qui vient l'indemniser. Donc, pour le chiffrer, alors, si on est sur un préjudice purement moral, parce qu'il y a parfois des infractions qui peuvent laisser des traces plus psychologiques qu'autre chose. Bon, on peut la demander le jour de l'audience, que ce soit liquidé, on demande un certain montant qu'on estime avec son avocat, et puis le tribunal évalue et rend sa décision. Donc, c'est assez rapide. Si on est sur un préjudice corporel, on peut avoir besoin de demander une expertise, parce que on n'est pas médecin, et le tribunal non plus. Dans ce cas-là, ça peut se demander soit dans la phase de l'instruction, donc dans le cadre d'une enquête, okay, soit ça peut se demander après le jugement sur la culpabilité, notamment dans les comparutions immédiates, où tout se fait en quelques jours. La victime n'a pas forcément les moyens de démontrer l'ampleur de son préjudice, et puis peut-être qu'elle n'est pas encore consolidée, que sa situation va évoluer. Voilà. Donc en général, l'avocat demande un renvoi devant la Chambre des intérêts civils. Cela lui laisse le temps de solliciter auprès de la juridiction la désignation d'un expert qui va convoquer la personne, la victime, qui va l'examiner et qui va rendre un rapport.
D'accord.
Voilà. Donc il faut savoir que l'ensemble de votre préjudice corporel est évalué. Donc ça va consister en la gêne subie.
Est-ce que ça reste une invalidité ou
voilà,
quelque chose comme ça?
Les séquelles, donc tout ce qui est temporaire comme préjudice est définitif. Donc le temporaire, ça va être la gêne, le déficit fonctionnel que vous avez eu pendant une certaine période. Donc même cette période doit être évaluée par le médecin. Le préjudice esthétique temporaire, si vous avez eu des cicatrices après ont disparu, mais bon, si elles sont restées pendant 6 mois. La douleur subie au moment de l'agression, ou en tout cas de l'acte que vous avez dénoncé, tout un tas de préjudices. Ensuite, on tombe dans les séquelles à partir du moment où votre état est consolidé et qu'il ne va plus, ça ne veut pas dire que vous êtes guéri, mais ça ne va plus évoluer. D'accord. Donc, hop, on fait une photo des gènes que vous aurez à vie. Bon, je vulgarise, mais c'est assez parlant. Au-delà du préjudice strictement corporel, on vient aussi indemniser le préjudice qui est patrimonial, la perte de salaire s'il y en a eu, l'incidence professionnelle si l'agression que vous avez dénoncée a un impact sur votre carrière.
Bien sûr,
vous serez plus capable d'exercer le même poste parce que vous deviez rester debout.
Et que vous êtes plus dans la capacité de le faire.
Exactement. Voilà, donc il y a tout un tas de postes de préjudice,
bien sûr.
Voilà. Et le préjudice d'agrément aussi, qui consiste à dire, bah, écoutez, moi j'étais licenciée auprès de... j'étais au cercle des nageurs,
je ne peux plus faire mon métier comme je devais le faire.
Donc... Non, le préjudice d'agrément, justement, c'était j'ai une activité extra professionnelle, donc le loisir.
Okay.
Le loisir, pas je fais de la marche une fois tous les 15 jours.
Oui, c'était une activité de loisir qui était régulière, on
exactement.
Va dire.
Exactement. Voilà, je suis inscrite au club de basket depuis 15 ans, j'en
d'accord,
fais,
d'accord.
je suis au club,
oui,
je
oui.
fais les matchs, les tournois. et je peux plus.
Et je peux plus.
Je ne peux plus. D'accord. Voilà. Et ben ça, c'est un
préjudice. Ça peut être considéré. Oui. Ah, je pensais pas. À partir du moment que c'était un loisir, je pensais que voilà, c'était pas pris en compte.
Il faut ça fait partie quand même des plaisirs de la vie dont on est privé.
D'accord.
Il faut simplement démontrer qu'effectivement, ça faisait partie du quotidien, de la victime, et que ça, c'est un préjudice que de ne plus pouvoir s'adonner à ce type.
Donc vraiment, c'est de multiples, on va dire, niveaux qui sont pris en compte. Hein, vraiment, vous le disiez déjà, la culpabilité. Après, le préjudice, à quelle hauteur il est. Donc, vous disiez physique, morale, dans le travail, même dans le loisir. Là, vous me surprenez. Une fois que tout ça est estimé par le juge.
Ah oui, tout à fait. C'est le juge. Alors, sur la base des conclusions du médecin, l'avocat de la partie civile va venir chiffrer. Le médecin a des barèmes.
Vous avez des barèmes.
Alors, nous, on reçoit régulièrement les barèmes de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour nous, et puis les autres juridictions, ce sera la cour d'appel du ressort qui émettra ce type de barèmes. Et donc, ça donne des fourchettes. Donc, en fait, à partir du moment, ça donne des tendances jurisprudentielles. À partir du moment où on a le médecin qui fait un rapport, je vous prends un exemple tout bête. Souffrance endurée, on a une échelle de 1 à 7. J'estime que les souffrances endurées par monsieur sont entre 2 et 3 sur 7.
L'échelle de 7. D'accord.
Voilà. Eh bien, nous, on sait que ça va évoluer entre 2000 et 4000 euros. À peu près. Et on se base sur les circonstances de l'accident pour essayer d'obtenir un petit peu plus que ce que...
Le barème, on va dire.
Ou de rester dans le barème. Hein, si c'est raisonnable, on reste dans le barème. Mais parfois, c'est vrai que les circonstances justifient qu'on aille un petit peu plus loin.
D'accord, maître.
Voilà. Alors, du coup, à partir du moment où l'avocat a déposé ses conclusions chiffrées, donc nous, on demande des sommes d'argent qui vont venir indemniser le préjudice de la victime, le juge rend sa décision. Si on estime que la décision est tout à fait acceptable, on ne fait pas appel. Et après, il faut récupérer donc
les fonds
pour le client. Alors, plusieurs options. Soit le prévenu s'acquitte spontanément de sa condamnation. Ça arrive, donc c'est le plus court et c'est le moins douloureux. Soit le prévenu s'en acquitte pas, mais il est solvable. Dans ce cas-là, il faut engager les procédures d'exécution, on mandate un huissier qui va aller lui saisir ses comptes, commandement de payer, saisie s'il le faut. Bon, voilà. Soit le prévenu
n'est pas solvable.
Là, c'est la double peine pour la victime
qui a souffert,
qui a subi un procès qui est long.
Et qui ne peut pas en plus être donc dédommagé.
Tout à fait. Donc là, le système est assez bien fait et l'État fait son travail de paix sociale en ayant investi deux fonds d'indemnisation de la charge d'indemniser, donc d'anticiper l'indemnisation auprès des victimes et après, à charge pour lui de récupérer cette avance sur la personne auprès de la personne qui a été condamnée. D'accord ? Donc, il y a deux fonds de garantie, le SARVI et la CIVI. Alors, je commence par le SARVI, c'est le plus court, le plus simple. Le SARVI, c'est un service d'aide au recouvrement des victimes. Donc, on peut le saisir et récupérer 1000 euros. On peut pas aller plus.
Au-delà.
Voilà.
D'accord.
Bon, donc c'est souvent pour
les petites
indemnisations. Si on a été condamné, si on a eu une condamnation à 800 euros au titre d'un préjudice moral, on demande au SARVI, on fournit les documents qu'il faut, le SARVI nous indemnise, et puis après le SARVI se rapproche de l'auteur pour récupérer lui-même, et pourquoi pas avec un échéancier si la personne n'a pas
les ressources suffisantes.
Mais au moins la victime, c'est fini,
bon.
La page est
tournée.
La CIVI, c'est autre chose. La CIVI, c'est une commission d'indemnisation des victimes d'infraction. Donc, c'est une chambre particulière au tribunal correctionnel, au tribunal judiciaire. On va la saisir et d'une demande d'indemnisation. Donc, en gros, on va lui dire, moi, j'ai cette décision, je vous demande de m'indemniser. Et là, il faut remplir un petit peu plus de conditions. Il faut notamment justifier d'un préjudice d'une certaine gravité, dont les séquelles, en tout cas, seront à minima à 1%. Bon, C'est une des conditions. Bon, il y a d'autres conditions de saisine de la CIVI qui font que ce n'est pas automatique, mais on peut saisir cette commission. On peut demander même à cette commission de désigner un expert. Donc c'est très intéressant. Et à partir du moment où on saisit la CIVI, qui est notre adversaire en fait ? Qui est notre interlocuteur, sans parler d'adversaire ?
Ouais.
Donc qui c'est qui va nous payer ? C'est le fonds de garantie. Donc ça c'est l'État en fait qui participe à cette procédure, qui va donner son avis, qui va être d'accord pour allouer une provision le temps de la procédure ou pas d'accord, qui fait valoir donc sa position. Et à partir du moment où le fonds de garantie va indemniser la victime, eh bien, ce sera encore une fois à lui de se retourner vers l'auteur pour récupérer les fonds qui ont été avancés par l'État.
D'accord. Et, voilà comment ça se passe. Et cela, ça, je veux dire, même si la personne reste solvable longtemps, il sera suivi longtemps par l'État ou il y a un délai?
Non, il sera suivi jusqu'à ce que la dette soit
soldée. Un jour soldée. Hein, d'accord. Voilà. Oui, non, parce que je sais que normalement, quand on a des dettes d'État, elles sont jamais effaçables, quoi, en fait, généralement.
Ah non, c'est une condamnation. Donc, à partir du moment où on n'est pas prescrit pour la récupérer, on la récupère. Hein. L'État a une créance sur cette personne.
D'accord. Donc, c'est les moyens qu'il y a de dédommager les personnes donc, qui sont considérées victimes d'une agression et qui ont été donc jugées et classées comme étant victimes. Donc, maître, juste pour terminer dans ça, en tout cas, on a vu qu'est-ce que donc pouvait conduire ces violences. Aujourd'hui, c'est pas compliqué, maître, de qualifier ces violences avec tout le monde, le progrès. Ça, je vous donne un avis. Je vous demande votre impression sur ça personnellement, de dire entre voilà les cyber attaques, les réseaux sociaux, les choses qui évoluent, les mentalités. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas compliqué de qualifier ces agressions ? Est-ce qu'elles sont pas devenues aussi un peu trop récurrentes et trop faciles ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, maître, là-dessus ? Votre avis personnel,
alors,
pour conclure.
Le droit s'adapte toujours à la société.
Oui.
Il y a des infractions qui n'existaient pas il y a 20 ans parce que il n'y avait pas les réseaux sociaux, notamment, parce qu'il y avait beaucoup moins d'échanges numériques, donc la cybercriminalité, ça n'existait pas. Donc soit on crée des infractions ad hoc, donc ça c'est au travail du législateur, hein.
Ouais.
Soit on peut rattacher un fait nouveau, sociétal, à une infraction qui existe déjà. Mais en tout cas, il faut effectivement, le droit pénal est un droit qu'on dit d'interprétation stricte, donc on doit véritablement coller aux conditions matérielles et morales de l'infraction pour que cette infraction soit caractérisée par la juridiction. Donc, je ne dirais pas que c'est difficile, mais c'est simplement un travail de juriste que d'arriver à trouver la bonne qualification des faits et la bonne réponse judiciaire.
Ah, parce que je me pose la question de me dire, voilà, on n'a pas un livre qui nous permet de dire, voilà, à partir du moment qu'il est dit telle chose ou tel acte, vous êtes une victime, vous êtes agressé. Vous voyez, on n'a pas...
Le code pénal recense tout un tas d'infractions. Donc il y a des terminologies qui sont génériques, mais qui vont recouvrir une pluralité de faits. Quand on parle d'atteinte volontaire à l'intégrité physique, ça peut être une gifle, mais ça peut être aussi le fait de se servir d'un tuyau à air comprimé pour s'amuser, et puis on va blesser quelqu'un.
Oui, mais comment on peut caractériser, vous voyez, maître, c'est ça. Là, sur cette émission, vous voyez, on a bien compris toute la procédure, mais quand on voit même, par exemple, des politiciens, quand ils profanent des dires, et que, par exemple, les politiques, elles disent quoi souvent ? Elles disent « oui, je vais vous attaquer pour... »
En diffamation.
Voilà.
Eh bien, en fait, c'est ce que je vous disais. Chaque fait doit coller à une infraction pénale spécifique. Donc, la diffamation, c'est très spécifique, effectivement. Il faut que ce soit une atteinte...
Mais comment les déterminer, maître ? C'est ça que je veux dire. Il faut qu'on appelle notre avocat. Est-ce que vous estimez que l'agression est justifiée ?
Mais vous allez consulter votre avocat
et
il vous dira tout simplement que les faits soit caractérisent une infraction, soit non.
Voilà. Est-ce que se faire siffler dans la rue, c'est une agression ?
Non.
Non. Est-ce que se faire harceler, par exemple, se faire poursuivre sur une distance en rentrant de son travail jusqu'à son domicile, est-ce que c'est considéré?
Oui, oui. Oui, alors, tout va dépendre justement de l'impact que ça a sur vous, d'une part, parce D'accord. que, bon, on peut être suivi sur 100 mètres, on trouve la personne suspecte, ça nous perturbe quelques minutes, le soir on est un peu mal à l'aise, et puis le lendemain on oublie.
Oui.
Bon, est-ce qu'on ne la revoit pas? Par contre, si le lendemain on retombe sur la personne, ça recommence pendant un mois, deux mois, ah, voilà, oui, là d'accord. on est sur un comportement qui est inquiétant, qui doit être signalé, bien sûr, et ensuite les circonstances viendront aider les avocats et les magistrats à qualifier ces faits.
Soit un préjudice, maître, excusez-moi, de dire, admettons, les propos, on va dire, à caractère raciste, par exemple, de dire. Oh mais toi tu es une sale italienne, voilà, tu vous faites chier vous les Italiens. Est-ce que c'est des propos, admettons?
Oui, mais ce sont des injures à caractère racial. Après, on peut tomber sur une infraction qui va être provocation à la haine aussi. Donc là, tout va dépendre de la façon dont le propos est formulé. Est-ce que c'est en public? Est-ce qu'on dit telle communauté, on va faire ci, on va faire ça? Bon, là, ce sont des menaces.
Et oui, il y a vraiment
Panel, et véritablement, il n'y a qu'une étude approfondie des circonstances.
Avec son avocat. Hein.
Voilà, alors il y a la parole du client, bien sûr, mais après, l'avantage de l'enquête, c'est qu'elle permet d'apporter des éléments objectifs. On peut avoir une vidéosurveillance qui va être dans le dossier et qui va permettre d'avoir un autre éclairage et une autre interprétation que le simple vécu de la victime.
Et c'est une bonne chose, par exemple, ces évolutions, parce qu'elles permettent parfois d'appuyer la parole de la victime, surtout quand c'est presque la parole de la victime contre celle de l'agresseur, quand il n'y en a que deux.
Effectivement.
Parce que c'est dur de contrebalancer quand il y a juste la parole de l'un contre l'autre, non, maître?
Comment c'est... Ah ben oui, bien sûr. Alors la vidéosurveillance, c'est un vaste sujet, parce qu'effectivement, l'image, c'est la preuve qui est difficile à contredire. Par contre, il y a quand même
des interprétations
aussi. Oui,
ça fera presque un sujet, maître. Hein,
mais
ça,
oui,
encore.
C'est vrai, c'est vrai. J'y pense.
Oui.
Oui, pourquoi? Parce que parfois on a l'image sans le son.
Et oui.
Donc ça ne va pas retranscrire l'intensité de ce qui est filmé, de ce qui a été subi, vécu par une personne. Si elle hurle pendant 5 minutes, on ne va pas l'entendre sur une vidéosurveillance sans son. Bon, voilà, ça aussi, ça doit être apprécié, mais ce n'est pas la preuve unique par excellence qui doit écarter les autres.
Bon, écoutez, en tout cas, on a compris aujourd'hui. Maître, on se fait un petit résumé comme on a l'habitude de le faire à chaque fois dans notre émission. Aujourd'hui, Maître, vous nous avez abordé donc les agressions, la procédure dans ces agressions. Qu'elles soient, on appelle donc ces agressions, ce sont des violences volontaires.
Ça peut être des violences volontaires, ça peut être des violences... les agressions, de toute façon, il y a toujours une connotation intentionnel, donc
on est bien d'accord.
On va rester là-dessus.
On est bien d'accord. Elles sont donc évaluées notamment par un médecin médico-légal qui estimera l'incapacité totale de travail. Si elle est de moins de 8 jours, vous disiez c'est une contravention. Si elle est plus importante, elle dépasse les 8 jours, là ce sont des délits et là ça va entamer une procédure, comme on le disait dans toute cette émission, auprès d'un juge, appuyé par un avocat, où il y aura des preuves, où il y aura plein de choses qui seront faites, et les dédommagements quand on est accusé. Qu'on est avec une somme qui a été estimée en fonction du préjudice, et bien si la personne est solvable, elle la paiera, elle s'acquittera. Si elle ne l'est pas, c'est une genre de caisse qui
c'est un fonds de garantie,
voilà,
c'est ça, c'est
qui
l'État
pourra
qui fait l'avance,
recouvrir cette somme là et poursuivre ensuite la personne qui en a été accusée et pour se la faire à nouveau rembourser. Voilà, donc un petit peu, j'espère qu'on a encore une fois éclairé. Franchement, je vous promets, je vais devenir une spécialiste et j'espère que nos auditeurs aussi, maître Céline Nando, des procédures que de toute manière vous comprenez bien, vous ne pouvez pas les aborder seuls. L'appui d'un avocat, d'un maître de loi est nécessaire, et prenez conseil notamment Eh bien, pourquoi pas chez Maître Céline Nendo et son cabinet aussi, hein, parce que vous n'êtes pas seule, maître.
Non, je ne suis pas seule, et tant mieux d'ailleurs. Ouais. Donc, oui, vous pouvez contacter le cabinet au 04 86 01 28 70. Et n'hésitez pas non plus à consulter notre site internet www.lendo-avocat.fr. Et je profite du coup de ce petit interlude pour saluer les collaborateurs du cabinet qui,
oui,
voilà, avec... je ne suis pas seule, non, et bien heureusement, je suis bien accompagnée.
C'est vrai, vous êtes bien accompagnée, et même par une compatriote qui est italienne.
Tout à fait.
Et qu'on salue bien fortement. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis une nouvelle fois dans notre émission avec Maître Céline Lendo. C'est notre avocate qui est là à votre disposition, et sincèrement, elle se creuse la tête pour essayer de rendre simple toutes ces procédures. Et donc cette émission, voilà, c'est Maître Céline Lendo, voilà, où le droit s'exprime avec passion. Vous le sentez, elle essaye de vous interpréter tout cela pour vous et vous rendre un petit peu les choses plus simples à voir du côté de la justice et quels sont vos droits. Voilà, ça c'est important. Maître, merci encore de votre disponibilité, de vos connaissances très larges dans le sujet. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau thème.
Avec grand plaisir.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.